Dans la première lecture, c'est un passage du livre de Coëlette ou Ecclésiaste. C'est un livre qui s'inscrit à l'intérieur des livres ayant trait à la sagesse d'Israël. Et le commencement de ce livre dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Si on veut être plus fidèle à la traduction de l'hébreu, c'est plutôt le mot « buée ». Tout est buée, c'est-à-dire inconsistant. La buée, par définition, on ne peut pas l'attraper avec nos mains. Et c'est sur cette question de, ensuite, cette question de l'amassement des richesses que tant la première lecture que l'Évangile va réfléchir, et à commencer par la question des successions. Je ne sais pas si vous êtes passé par la case succession dans votre famille, mais ça peut être complexe. Parce que dans la question de la succession, il y a aussi quelque chose parfois du rapport à l'argent qui est revisité. Et qu'est-ce que dit le livre de Coëlette, le livre de la sagesse? Il dit, ben voilà, un homme s'est donné de la peine, mais qui va amasser après lui toute cette peine, tous ces travaux, cette souffrance? Qui donc va avoir part à ses biens? Tout est bué. Je trouve ça intéressant de dire que le Seigneur, à travers sa parole, nous permet de redimensionner notre rapport aux biens matériels. Parce que, à la fois, nous avons à faire preuve de responsabilité dans les biens matériels qui nous sont confiés, responsabilité pour construire un monde plus juste et plus fraternel, et à la fois, nous sommes tendus vers le ciel. C'est ce que nous dit l'apôtre saint Paul dans la deuxième lecture. Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Et le chrétien, il est comme ça, il est en tension, si vous voulez, il est en tension à la fois la terre et le ciel. C'est pas se désintéresser des questions du ciel pour se figer uniquement sur les questions matérielles et financières. Non, c'est à la fois être responsable dans notre gestion de l'argent, des biens matériels, d'être juste, ce qui n'est pas si simple, et donc de ne pas écouter en nous cette forme de doigts, vous savez, on a parfois des doigts crochus, comme on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut s'emparer des choses, on veut mettre la main sur des biens où on veut demander plus que notre dû. Et c'est intéressant de voir comment chacun se positionne par rapport à la justice et par rapport à l'honnêteté, par exemple. L'honnêteté, c'est intéressant. Je vous donne quelques exemples plus personnels. Je vais faire les courses, comme tout un chacun, et j'avais acheté pour l'occasion un barbecue. Donc c'était un gros paquet. Mais avant, j'avais mis deux petites choses en dessous, et je pose le barbecue dessus, et j'arrive à la caisse. La caissière me flash le barbecue, très bien. Je décharge dans mon coffre. J'avais oublié ce que j'avais, mais j'ai vraiment oublié ce que j'avais mis en dessous du barbecue. Il y en avait quoi pour 25 euros. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? De fait, on peut ce qu'on appelle rationaliser. C'était aller dans une supermarché. Ah oui, les grandes surfaces, les plus grands des voleurs, etc. C'est ce qu'on appelle rationaliser et partir avec les affaires impayées. Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai fait, je vais retourner. Je dis, voilà, j'ai complètement oublié, j'ai pris ça par inadvertance. Et donc, je suis repassé à la caisse. Et je trouve ça important qu'on soit honnête. Ça a été, il n'y a pas très longtemps, les déclarations d'impôts, par exemple. Alors, on dit, oui, l'État, c'est le plus grand voleur, etc. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle, mais on est bien content d'avoir des services publics qui fonctionnent comme ils peuvent. Mais bon, on est bien content d'avoir un État qui tient la route. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Où je me souviens d'un autre cas, je sors d'un parking et il y avait une barrière qui ne fonctionnait pas. Donc j'étais rentré avec mon ticket de parking et la barrière, elle restait ouverte. Et il y avait une autre sortie où la barrière était fermée. On mettait son ticket, on payait, vous connaissez le principe. Par quelle barrière vous allez passer? Celle qui reste ouverte parce qu'elle ne fonctionne pas, ou dit, ben non, en justice, Je savais le prix du parking, je savais combien de temps j'y restais, je passe par la barrière où je dois payer. Oui, je trouve que c'est intéressant d'être très attentif dans ces détails-là du quotidien qu'on vérifie notre honnêteté. Est-ce qu'on est juste ou on n'est pas juste? Et évidemment, c'est ce que dit Jésus dans les successions, voilà, c'est puissance 10. Dans les successions, hein, maître dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Déjà le sujet de tension, quoi. Et Jésus qui répond, voilà, qui donc m'a établi comme pour être votre juge et l'arbitre de vos partages. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour vous donner des clés comment soit partagé votre héritage. Je suis venu pour le royaume de Dieu. Et on connaît ensuite la parabole de cet homme qui amasse. Et puis, à un moment donné, c'est intéressant. À un moment donné, il dit, « Repose-toi, mon âme. Mange, bois, jouis de l'existence. » Et Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. » Ce qui est intéressant dans cette parabole du Seigneur, justement par rapport à cet homme qui avait de grands biens et qui amassait, ce n'est pas le fait d'avoir de grands biens. Ce n'est pas ça la question. Parce que c'est un bon gestionnaire, il a fait de bonnes récoltes, il veut construire des greniers plus grands pour amasser son blé, etc. Bon, c'est de la bonne gestion. Dieu ne maudit pas le bon gestionnaire. Ce n'est pas une question de quantité de zéro sur votre compte en banque. C'est une question de demander au bien matériel de nous donner le repos de l'âme. Demander au bien matériel de nous donner le repos de l'âme. Au fond, et quand vous regardez, je vous invite à retravailler ce passage d'évangile, à chaque fois, il saute au centre. Il ne pense qu'à lui-même. Regardez bien, mes greniers, ma récolte, mon blé, mes biens, moi-même, mon âme, il ne pense qu'à lui. Il est auto-centré. Et c'est un petit peu le danger quand qu'on accumule, non pas pour Dieu, mais pour soi-même, de ne penser qu'à soi-même, d'être auto-centré. Et donc de ne plus voir, il y a une sorte d'aveuglement. Il y a une sorte d'aveuglement, d'angle mort dans nos vies, on ne voit plus même les besoins de l'autre. Parce qu'il pourrait avoir de grands biens et partager. C'est intéressant de dire comment vous organisez vos partages avec ceux qui sont dans le besoin. Vous êtes sollicité, j'imagine, comme vous et moi, beaucoup par les dons, surtout en fin d'année. Mais est-ce que moi, j'ai une quantité d'argent que je veux donner pour soutenir ceux qui sont dans le besoin? Hein, vous voyez, je pense que c'est important d'être attentif là-dessus. Est-ce que je suis attentif à redonner ce que j'ai pour me descendre, qui est une attitude spirituelle avant d'être une attitude financière. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un budget de don, par exemple? Est-ce que j'ai un budget de don, hein, dans l'ancien temps, on parlait de la dîme. Vous savez que la dîme, c'est le 10%, c'est ça que ça veut dire. 10% des revenus, hein, étaient redonnés. Alors bon, parfois, quand on regarde ça, sa propre déclaration d'impôt. Alors oui, voilà, on voit bien que ça représente quand même une somme. Est-ce que justement, l'idée, c'est que je ne suis pas centré sur moi-même. J'ai ce décentrement qui fait que je prends conscience, je suis à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui lui aussi est dans une attitude de don permanent. Alors oui, on comprend très bien l'apôtre saint Paul qui dit. Plus de mensonges entre vous, vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de sa façon d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, c'est le baptême. Hein, le baptême, nous aurons la joie après la messe de célébrer un baptême. Voilà, c'est le baptême qui fait que j'ai une manière nouvelle de vivre. Et je crois que c'est intéressant de voir que les premières communautés chrétiennes, ils mettaient tout en commun. Parce qu'un des signes de mon appartenance au Christ, en tout cas au tout début du christianisme, un des signes visibles, c'est que chacun demandait en fonction de ses besoins, mais tous mettaient en commun les revenus qu'ils avaient. Ce qui est le principe aujourd'hui de la vie religieuse, par exemple. Donc, mais bon, c'est intéressant, même si le format a changé aujourd'hui, les choses sont différentes, mais de dire, est-ce qu'il y a des choses dont je devrais me débarrasser, par exemple. Moi, j'ai un critère à vous donner. Si vous n'utilisez pas un vêtement pendant un an, il ne vous appartient plus. Si vous n'utilisez pas un vêtement pendant un an, si vous n'utilisez pas des paires de chaussures, si vous n'utilisez pas des appareils, etc., que vous avez chez vous, ils ne vous appartiennent plus. Ouais, un critère. Si pendant un an, j'en ai pas eu l'utilité, qui me dit que l'année prochaine et l'année suivante, j'en aurai besoin? Oui, se dire, tiens, du coup, et vous voyez, c'est pas juste vous l'avez acheté, vous l'avez payé, etc. C'est pas une question de quantité. Ce n'est pas dans mes besoins. Donc, vivre à une certaine sobriété. Une certaine sobriété, une certaine simplicité. Et c'est l'accumulation qui aveugle. Oui, c'est cette forme d'accumulation. C'est comme le bon gestionnaire qui accumule dans ses greniers, qui fait que je ne pense même pas à la manière dont je vais gérer mes biens et en quoi l'Évangile va venir éclairer ma manière de gérer ce que je possède. Bien sûr que l'Évangile a quelque chose à dire. Et soyez attentifs, vous savez, le pape Léon XIV, pourquoi il a pris le nom de Léon, Léon XIVe, parce que bon, évidemment, il y avait un Léon XIII, alors tout le monde n'est peut-être pas au fait de l'histoire de l'Église, mais Léon XIII, c'était un pape du XIXe siècle. Et le XIXe siècle, fin du XIXe, et au moment de la révolution industrielle, il a publié une encyclique sociale. C'est un document du Saint-Siège que le pape publie sur la question de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Parce que c'était le travail des enfants, c'était le travail mais de façon excessive, etc. Et l'accumulation de biens de certains, eh bien le pape Léon XIII a initié ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église. Et Léon XIV, tout le monde a dit, tiens, pour lui, la question de la justice sociale, c'est très important. Sinon, il aurait pris un autre prénom. Donc, je trouve ça intéressant de dire que nous sommes avec ce pape pour qui ça tient à cœur, la justice sociale, parce que, voilà, il y a des besoins des personnes humaines, des besoins fondamentaux, hein, boire, manger, se vêtir, avoir un logement, bon, la sécurité, la paix. C'est un besoin fondamental. Et c'est pour ça qu'on prie souvent pour les dirigeants des nations. Parce que le manque de paix et la guerre est une injustice. Parce que ça met en difficulté des tas de populations. Donc c'est intéressant que nous puissions réfléchir sur cette question-là de comment l'Évangile... c'est pas juste quelque chose de spirituel et qui déconnecté du réel, non. L'Évangile vient donner une lumière. Comment je m'empare de cette lumière? Qu'est-ce qui est en moi un angle mort dans la gestion des biens, que vous ayez peu ou beaucoup d'argent? C'est pas la question. C'est en quoi l'Évangile me fait sortir de ma zone de confort? En quoi je suis invité à me laisser interpeller par le Seigneur pour que, à travers des biens de ce monde, je peux avoir une réalité différente, la réalité qui va avoir à faire avec le royaume des cieux. Puissions-nous, en mettant en pratique ce passage d'Évangile, puissions-nous être attentifs à être des témoins aussi dans le quotidien de nos vies, dans le quotidien de nos possessions, pour devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.